RCF. François Verheyghen, vous êtes enseignant-chercheur en entomologie à l'Université de Liège en Belgique, c'est-à-dire que vous êtes un spécialiste du comportement des insectes et de leur impact sur l'environnement et sur l'agriculture, mais vous vous passionnez également pour l'éthologie, le comportement des animaux en général, une matière que vous enseignez à l'université, mais que vous aimez aussi faire connaître au grand public. Vous venez de publier un livre étonnant, justement, sur le comportement des animaux, un livre intitulé « Un tanguy chez les hyènes » aux éditions Delachaux et Nestlé. Alors nous allons aujourd'hui, au cours de cette émission Visage, découvrir en votre compagnie quelques comportements incroyables, aussi bien des coccinelles, des abeilles, que des rhinocéros ou de certains poissons. Mais alors d'abord, parlez-nous de vous, François Verheyghen. Est-ce que l'on peut dire, sans exagérer, que le goût des sciences naturelles est inscrit dans vos gènes ?
Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les gènes de ma famille. J'ai d'ailleurs un oncle qui a refait toute la généalogie de la famille et qui s'est intéressé particulièrement à un point, c'est la présence de naturalistes qu'il y a comme ça chez mes aïeux. Et c'était assez incroyable. Alors je
pourrais ça remonte jusqu'où alors ?
On a remonté à 8 générations et ce qui est intéressant, c'est que à une exception près, sur chaque génération, il y a un naturaliste, quelqu'un qui s'est soit professionnellement, soit vraiment comme une passion démesurée, intéressée à la nature. Et j'ai un arrière-grand-père qui est pour moi le bel exemple. Il était médecin. Il opérait dans les Ardennes belges. Et là-bas, les gens n'ont pas souvent beaucoup d'argent. Et alors, il connaissait, tous ses patients connaissaient son goût pour les sciences naturelles. Et il était fréquent que les gens dans la salle d'attente attendent leur tour avec un faisan mort, avec un caillou ou avec quelques insectes collectés.
Et
ils espéraient pouvoir le payer, ce qui était souvent accepté. Et en accumulant pendant des années tous ces dons, tous ces paiements, mon arrière-grand-père a créé un musée qui a longtemps porté son nom, le musée Verheyghen, à Oufalis, dans les Ardennes belges. Et il y avait là-bas des quantités d'oiseaux empaillés, il y avait des collections de roches, des minéraux et des collections d'insectes piqués, étalés, qu'il préparait et comme un hobby.
Et le petit garçon que vous étiez a vu ce musée ?
J'ai vu ce musée avant qu'il ne soit démantelé, faute de moyens par la commune. Et donc, toutes ces collections ont été éparpillées dans divers musées en Belgique. Et j'ai eu l'occasion, et j'en ai d'excellents souvenirs, dont un où j'avais la chance de pouvoir aller rechercher deux rapaces empaillés pour une élocution à réaliser à l'école.
Et alors, est-ce que votre père avait la même passion ?
Mon père avait peut-être une passion moins poussée, mais malgré pas en tout cas de manière professionnelle non plus, mais c'était un amoureux de nature. Il nous emmenait presque tous les week-ends en balade, en forêt. Je me rappelle de parties de pêche qui en fait devenaient en fait des cours de biologie sur les poissons. Je me rappelle de balades dans les épicéas, nous parler des oiseaux qui passent. Et donc, oui, il y en a beaucoup comme ça. Et j'ai des souvenirs d'enfance où je sens quand même qu'on m'a baigné là-dedans depuis petit. Ouais.
Alors, je crois savoir qu'il y a un professeur de biologie qui a aussi beaucoup compté pour vous donner ce goût-là.
Non, énormément.
Adolescent plutôt.
Oui, j'avais 13 ans. Premier cours de biologie à proprement parler à l'école. Et là, une méthode un peu bizarre pour l'époque, c'est qui consistait à nous faire élever des insectes en classe. Et donc, il avait ramené des phasmes qu'on devait soigner, mesurer, pour apprendre le développement de l'insecte. Qu'est-ce que c'est qu'un œuf ? Pourquoi il y a toute une série de tailles avant l'adulte ?
Attendez, je vous arrête. Des phasmes, là, ça vous semble très naturel. Je suis sûr que 99% oui. Des gens qui nous écoutent disent « Des phasmes ?
Excusez-moi, qu'est-ce que c'est ?» Des insectes qui ressemblent à des brindilles. Vraiment, vous les posez sur un bout de branche et vous passez à côté sans les voir. Ils ont un corps extrêmement allongé, ils se déplacent très peu et donc ils se fondent dans le décor.
Et on voit mieux, c'est les champions du camouflage.
C'est tout à fait ça. Et donc voilà une méthode un peu particulière qui fait que je m'attache à ces insectes et puis après l'exercice, je vais le rencontrer. Je lui dis que je voudrais bien les récupérer. Oh, il me dit je les ai chez moi, donc maintenant tu dois venir me visiter. Je vais le visiter, on parle des heures, il me donne ces insectes. Et il me fait jurer, François, tu les prends, tu ne les vends jamais. parce que ça vaut de l'argent, tu ne les vends jamais et tu les donnes autant que possible pour faire découvrir cela. J'avais 13 ans, j'en ai 42, je les ai toujours, ces insectes.
Vous les avez toujours.
Bien sûr, pas les mêmes individus, parce que ça vit un an à tout casser. Donc j'ai les descendants des descendants des descendants et que j'ai gardés, qui sont dans mon bureau à l'Université de Liège. Et je ne manque jamais d'en donner quand on m'en demande.
Alors François Verheyen, des enfants amoureux de nature, passionnés de géologie à l'adolescence, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a peu qui choisissent d'en faire leur métier. Vous, à quel moment vous êtes dit, mais je veux devenir entomologiste, hein, puisque c'est ce que vous êtes?
Oui, alors autant j'élevais ces insectes, j'avais des insectes dans ma chambre en élevage, donc depuis mes 13 ans, autant je n'imaginais pas en faire mon métier. Par contre, je voulais faire les sciences naturelles, je me suis donc engagé dans des études en Belgique qu'on appelle de bio-ingénieur, et me voilà parti. Et puis je me découvre tout doucement dans ces études qu'en fait j'ai des profs de zoologie passionnants, j'ai des personnes qui me proposent de réaliser des travaux personnels sur le domaine des insectes et de la biologie des insectes, et puis en dernière année sur me spécialiser dans le comportement de certains animaux, dont des insectes. Et me voilà donc parti avec des mémoires de fin d'études sur le sujet. J'apprécie. Je demande si je peux continuer sous la forme d'une thèse de doctorat. On me propose un poste qui allie recherche et enseignement. Et me voilà parti à faire des recherches dans le laboratoire, essayer de comprendre le comportement des insectes. Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de savoir comment les insectes sélectionnaient l'endroit où ils devaient aller, en ce compris la plante dont qu'ils mangent ou un partenaire à séduire. Et ce sont des choses que, je découvre de manière assez approfondie pendant mes travaux de doctorat.
Donc, vous êtes docteur en entomologie, c'est vraiment la science qui étudie les insectes.
Oui.
C'est ça l'entomologie.
L'entomologie, la science qui s'intéresse aux insectes. Après, vous pouvez vous intéresser à la diversité des insectes, à leur comportement. On peut s'intéresser à leur physiologie, donc comment leur corps fonctionne. Donc il y a plein de sous-disciplines en dessous de la discipline de l'entomologie. Et c'était en fait quelque part écrit dans les gènes qu'il fallait que j'aille là-dedans, oui, certainement.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors François Verheyen, je vais vous poser la question énorme, je vais faire le candide absolu, mais ça sert à quoi d'étudier les insectes?
Oui, comme ça paraît peut-être un petit peu jouette, hein, je ne sais pas. En tout cas,
comment vous dites en Belgique?
Je dis jouette.
Jouette.
Oui, c'est-à-dire tu t'occupes, tu joues avec quelque chose d'insignifiant, hein, alors qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais tout ce que vous mangez, tout ce qui est végétal et que vous pouvez manger à table doit être protégé contre des insectes. Des insectes, il y en a partout. Évidemment, les insectes, petite anecdote, forment environ 2/3 de la diversité animale. Donc l'homme a décrit 1,5 million d'espèces animales, il y a 1 million d'espèces d'insectes. Ils sont donc absolument partout, dans les eaux, dans les airs, sur Terre. Mais je reprends mon exemple, ils mangent des plantes. Pour beaucoup, ils mangent des plantes. Et nous devons développer toute une série d'outils pour empêcher ces insectes de manger les plantes que nous produisons pour nous. Hein. Un champ de blé va être attaqué par des insectes, un champ de betterave pour faire du sucre. Voilà. Tous sont attaqués. Et vous, comme moi, sans doute, on a envie de passer à un monde sans insecticides, qui est pourtant l'invention numéro un que l'humain a développée pour se débarrasser des insectes. Aujourd'hui, c'est plus tellement à la mode. Et donc, notamment, l'un des sujets, en tout cas, que j'explore avec mon équipe au laboratoire, c'est le développement de nouvelles méthodes de lutte contre les insectes en manipulant leur comportement.
Alors, est-ce que les insectes sont forcément nos ennemis? Parce que tel que vous venez de le décrire, il faut pratiquement qu'on leur enlève leur pain de la bouche pour nous pouvoir en manger, pouvoir manger.
Ah, je vous remercie, parce qu'évidemment, moi j'ai pris un exemple pour essayer d'être court, mais après on peut prendre l'exemple de tous ceux qui nous sont bénéfiques. Je pense en premier lieu, ce qui va sauter aux yeux de tout le monde, c'est évidemment les pollinisateurs, de nouveau pour le côté nourriture. Sans les pollinisateurs, nous n'avons pas de fruits, nous n'avons pas toutes ces plantes qui doivent passer par la phase de reproduction par un insecte qui rentre dans une fleur, qui se recouvre de pollen, qui passe à la fleur d'à côté et qui fertilise ainsi cette fleur, conduisant alors à un fruit.
Donc ça, on les aime bien. Là, ce sont les abeilles. Ouais. En plus, elles nous donnent du miel. Donc ça, c'est l'insecte qu'on aime beaucoup.
Ah, toutes les abeilles ne donnent pas du miel. Il y en a vraiment très peu, en fait. Quand on dit les abeilles, il y a des centaines d'espèces, en fait, d'abeilles. Il y a quelques espèces qui font du miel. Mais en fait, il y a toute une série, surtout, d'espèces qui n'en font pas, mais qui ne sont pas moins importantes. Si je prends l'exemple des coccinelles, voilà, pour prendre quelque chose d'autre, voilà un insecte qui est beau, mais qui n'est pas seulement beau, puisqu'il est aussi très utile. Il mange tout plein d'insectes que nous n'avons pas envie d'avoir sur nos rosiers, par exemple.
Des pucerons,
comme,
je crois.
Oui, comme par exemple des pucerons. Donc, voilà, il y a tous les insectes aussi qui vont participer à l'aération du sol, au recyclage de la matière organique. C'est des choses, quand une plante meurt, s'il n'y a pas un insecte pour la décomposer, eh bien, on ne rend pas à la terre la matière organique que portait cette plante à l'origine. Donc, voilà, évidemment, les rôles bénéfiques des insectes sont multiples. Et pas juste des services rendus à l'homme. Il faut par exemple penser qu'ils sont aussi la proie de très nombreux animaux, comme les chauves-souris ou comme les oiseaux, par exemple. Donc les insectes sont absolument indispensables à l'équilibre de tous les écosystèmes.
Tous les insectes ? Parce qu'on a tendance à revenir aujourd'hui sur cette image que l'on a par rapport aux plantes. Il y a les mauvaises herbes, entre guillemets, et il y a les bonnes plantes. Et on revient là-dessus parce qu'on se rend compte que finalement, toutes les plantes ont leur rôle à jouer. Est-ce que vous diriez la même chose des insectes ?
Oui, tout à fait. Aucun doute. C'est-à-dire que c'est de plus en plus à la mode d'étudier ce qu'on appelle, pardon pour le terme, les services écosystémiques. C'est en quoi une espèce participe, rend service à son écosystème ? On me pose souvent une question que je n'aime pas par ailleurs, c'est « mais en fait, un moustique, ça ne sert à rien ». Je déteste entendre ça parce qu'évidemment c'est très anthropocentré, ça ne sert à rien pour l'homme, il nous pique, il nous véhicule des maladies, il prend notre sang.
C'est le plus grand tueur de la planète,
vous avez tout à fait raison. Oui, tout à fait raison, bien au-delà de tous ces grands tueurs qu'on s'identifie peut-être au cinéma comme des requins blancs ou autres. Non, les moustiques sont
les extrêmement grands tueurs de la planète, ça c'est vrai, plusieurs centaines de milliers de personnes par an.
Et pourtant, sans moustiques, vous ne nourrissez pas tout ce qui est amphibien, les grenouilles par exemple, ou salamandres ou autres. Vous ne nourrissez pas les oiseaux, vous ne nourrissez pas des araignées. Et à leur tour, tous ces individus participent eux aussi au bon fonctionnement d'un écosystème. Donc, ils sont en fait tout aussi importants peut-être que l'abeille mellifère. Ils ont juste des rôles différents.
Alors, vous, François Verheyen, vous avez étudié beaucoup. Je ne sais pas combien, vous avez écrit 200... texte scientifique, non ? Vous avez publié
c'est ce
dans
qu'on
votre
nous
domaine de recherche. C'est ce qu'on demande à des scientifiques.
C'est ce qu'on demande aux scientifiques, effet.
Et alors, vous avez beaucoup travaillé sur les coccinelles, je crois.
Oui, c'était...
Dites-nous pourquoi elles sont aussi sympathiques, parce que là aussi, tout le monde les aime, ces petites coccinelles.
Oui, tout le monde les aime, et puis en fait, depuis quelques années... plus tout le monde, en fait. Les coccinelles, pourquoi elles sont formidables ? Parce que d'abord, elles sont jolies. Hein. C'est joli, c'est très coloré. Je brise, 10 secondes, je brise un mythe. Non, le nombre de points sur le dos d'une coccinelle n'indique pas son âge. Chaque espèce de coccinelle a un nombre de points souvent qui est défini. Ainsi, vous avez une espèce à 2 points, Dahlia bipunctata, une espèce à 7 points, Coccinella septempunctata. Donc voilà,
je brise. Vas-y, donnez-nous un peu de latin, c'est très joli.
Je continuerai alors. Donc elles sont utiles parce qu'évidemment, elles mangent toute une série d'insectes indésirables. On parlait des pucerons, les cochenilles, les aleurodes, plein d'insectes qu'on n'a pas envie d'avoir sur nos arbres fruitiers, sur nos rosiers. Elles sont, c'est vrai, un symbole de, finalement, l'alternative aux insecticides. Elles sont un symbole de la lutte biologique. Et puis, vous me demandez du latin, il y a cette Harmonia axyridis, une coccinelle qui nous vient de Chine et qui est un petit peu ennuyante parce qu'elle est introduite en France, en Europe en général. Et elle a cette fâcheuse tendance à manger nos propres coccinelles. Oui, parce que quitte à faire, lorsqu'on a le choix entre un puceron bien dodu ou une compétitrice, autant s'attaquer à la compétitrice d'abord, on s'assure d'avoir le puceron. Elle a donc ce comportement un petit peu gênant parce qu'elle fait chuter la biodiversité des coccinelles en s'attaquant ainsi à toutes ces coccinelles. En plus, elle va avoir du mal à passer l'hiver dans nos pays, et pour survivre, elle va rentrer dans nos maisons, dans nos chambres à coucher, passer par les interstices des fenêtres, et former des grappes sur les rideaux avec une odeur désagréable, des allergies provoquées chez certaines personnes, et puis elle se déplace sur votre chambre à coucher quand vous dormez, ça n'a rien d'agréable.
C'est moins agréable là. Ouais.
Voilà. Et donc moi, elle me passionne malgré tout, parce que comment des coccinelles font pour identifier le bon endroit pour passer l'hiver ? Comment se fait-il qu'elles soient tout d'un coup 50, le lendemain 100 ? Elles communiquent en fait les unes avec les autres, c'est des choses que donc j'ai étudiées.
Elles se passent les informations.
Exactement.
Viens dans cette maison, tu seras à l'abri pour l'hiver.
Mais c'est...
Elles communiquent comme ça.
Je ne pouvais pas déchiffrer leur langage mieux que vous ne venez de le faire. Elles, littéralement, il y en a une qui rentre, qui trouve que l'endroit est confortable, elle émet des phéromones. C'est leur langage.
Phéromones.
Les phéromones, ce sont des molécules, des odeurs que les insectes se partagent pour communiquer parce qu'ils ne savent pas parler. Ils n'ont pas d'oreilles, ou en tout cas peu ont des oreilles. Et résultat, ils émettent des odeurs et ils communiquent. Et cette communication, les coccinelles en abusent pour pouvoir justement attirer les congénères. Et cette odeur qu'elles émettent, veut littéralement dire « J'ai trouvé un endroit où passer l'hiver, ramenez-vous, chère copine. »
Attendez, c'est incroyable ce que vous nous dites là. C'est que par l'odeur, elle va indiquer des directions.
En effet, des odeurs...
Comme on le sait, les abeilles, par leur danse,
tout
donnent
à fait
des informations de direction. Vos coccinelles chinoises le font par l'odeur.
Exactement.
Incroyable.
Elles le font de deux manières. Elles vont semer un peu comme le petit pousset dépose des petits cailloux pour retrouver son chemin. En rentrant dans votre maison, elle se dit « il fait bon ici, je vais marquer la fenêtre, le châssis, le mur ». Et ainsi, une coccinelle qui viendrait ensuite n'aura qu'à suivre le chemin. Mais elles le font aussi à distance, en émettant des parfums plus odorants. Et donc, une coccinelle qui vole à proximité d'une maison sans l'odeur par une fenêtre, se dirige vers la fenêtre, se pose et puis suit les petits marquages. C'est des choses qu'on a découvert dans mon équipe, dans mon laboratoire, la communication chez les coccinelles.
François Verhaeghen, j'aimerais bien que vous nous parliez encore un peu de vos recherches, parce que vous travaillez beaucoup en lien, bien sûr, avec le monde agricole aujourd'hui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de recherches que vous menez sur les insectes, qui sont respectueux de l'environnement, puisque je sais que c'est votre préoccupation aussi, mais qui intéressent grandement les agriculteurs?
Oui. Eh bien, le premier qui me saute à l'esprit, j'en ai au moins deux ou trois, mais vous me couperez s'il le faut. Le premier, c'est que la France est l'un des plus grands producteurs de noix en Europe. Il y a aussi deux bassins principaux de production de noix au sud-est et au sud-ouest. La noix a longtemps été assez peu soumise aux pressions d'insectes, mais est arrivée une petite mouche de Californie. Vous vouliez du latin Ragoletis completa. Cette petite mouche, elle va pondre ses œufs dans les fruits, des œufs éclos, des larves qui mangent le brou et qui détériorent alors le noyau, la noix que l'on mange. Ça réduit sa qualité, tout simplement, de son goût.
Le problème, c'est que les pauvres producteurs de Grenoble ont dû être complètement affligés.
Et tout à fait à juste titre, puisqu'on parle, lors des grosses années d'infestation, de 80 à 90% de perte de chiffre d'affaires. La seule solution est de traiter à l'insecticide et c'est pas tellement efficace malgré tout parce que le noyer c'est grand, ça monte très haut et c'est difficile d'aller atteindre les fruits.
Pas terrible pour l'environnement non plus.
Et là on est arrivé avec un projet que justement suggéré par des collègues français et nous avons essayé de comprendre le comportement de ces mouches. Et on a découvert qu'en fait, ces mouches, je vais le faire court, le mâle se pose sur un fruit et émet une odeur pour attirer la femelle à lui. La femelle, attirée par l'odeur, se pose sur le fruit, il s'accouple et la femelle pond directement ses œufs dans le fruit. Nous avons imaginé une méthode qui consiste à identifier cette odeur. Ce que nous avons fait, on a caractérisé les molécules qu'il y a dans ce parfum. Et nous avons appliqué ce parfum dans le verger absolument partout à des doses de cheval. Résultat, imaginez, vous êtes une mouche femelle et vous entrez dans ce verger, vous sortez du sol, vous vous éveillez de votre hiver, vous arrivez dans ce verger et ça sent le mâle partout. Chaque centimètre carré sent le mâle et pourtant les mâles ne sont pas très nombreux, mais ça sent le mâle partout. La voilà en train de partir à gauche, à droite, incapable de trouver le partenaire. Mais une femelle qui ne trouve pas de partenaire est une femelle non fécondée qui ne peut pas pondre des œufs. S'il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de dégâts. Résultat, avec simplement un diffuseur de parfum dans un verger, on est capable de protéger le verger. Alors l'arbre, il est haut, il faut mettre des diffuseurs d'odeur jusqu'en haut de l'arbre. Aujourd'hui, des industries françaises développent des fusils de paintball. À la place de mettre des billes remplies de couleurs, il y a des billes remplies de parfums. Et il les voilà, ces personnes, un emploi nouveau qui consiste à se promener dans un verger, à tirer des billes dans les arbres, dans les branches très hautes, et des billes qui diffusent l'odeur en question.
Je comprends mieux, en vous écoutant, pourquoi vous vous intéressez beaucoup aux odeurs? Parce que j'avais lu ça sur votre travail, vous étiez très à la recherche, à l'affût de la compréhension des odeurs émises par les insectes, et puis on le verra aussi par certains animaux, on en parlera tout à l'heure quand on parlera d'éthologie. Mais c'est vrai que l'odeur est quelque chose de très très important pour comprendre le monde des insectes.
Oui, moi je dirais qu'on peut manipuler l'homme par énormément de paroles et de discours bien ficelés. L'insecte, vous le manipulez complètement par des odeurs. Ils sont complètement dépendants de leurs antennes. Les antennes sont leur radar pour percevoir les odeurs, c'est leur nez finalement. Et ce sont tous des mouvements réflexes. Donc, ça veut dire que l'insecte, il perçoit l'odeur, il n'a pas le temps de réfléchir. Tiens, est-ce que c'est ce que j'y veux, est-ce que j'y vais pas? Non, c'est un mouvement réflexe. Je sens l'odeur d'un partenaire ou d'une partenaire, ou je sens l'odeur de ma plante, j'y vais. Quand on comprend l'importance que les odeurs ont dans le règne animal et chez les insectes en particulier, on comprend qu'il faut absolument les étudier parce que vous pouvez manipuler le comportement de toute une série d'insectes, qu'ils soient indésirables, désirables ou ni l'un ni l'autre. Finalement, vous manipulez le comportement de ces insectes.
François Verrigan, est-ce qu'il n'y a pas un bouleversement qui est propre aussi à l'évolution de notre société? Parce qu'en vous écoutant tout à l'heure, vous m'avez parlé des coccinelles qui arrivaient de Chine, vous m'avez parlé des mouches qui arrivaient de Californie. Aujourd'hui, on voyage beaucoup. Conteneurs, avions, les insectes circulent sur toute la planète. C'est une source de grand danger et de beaucoup de travail pour vous?
C'est une source de danger et de travail pour moi, certainement. D'ailleurs, demain, je passerai une journée à l'ANSES, à Paris, pour travailler sur les nouveaux arrivants, les nouveaux insectes arrivants sur le territoire français, essayer L'ANSES. D'évaluer l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité de l'environnement. Et le S à la fin doit faire référence à sanitaire, je ne sais plus très bien. Mais résultat, nous devons évaluer les risques. Et c'est ce que je fais, j'analyse des risques liés à l'arrivée de nouvelles espèces d'insectes, comment leur comportement, leur mode d'alimentation, comment leur arrivée va perturber peut-être la production de toute une série de plantes ou notre santé d'une manière générale.
Et ça se développe vraiment, vraiment
énormément, puisqu'avec les échanges de marchandises et de personnes, on se rend bien compte que le nombre d'espèces qui quittent leur aire de répartition d'origine pour se rendre dans des territoires où ils ne sont pas présents, mais ça ne fait qu'augmenter de manière exponentielle. C'est très rapide. La plupart, en fait, sont absolument sans conséquence. Et les risques sont la plupart nuls parce que, vous savez, si vous êtes une espèce habituée aux belles chaleurs du sud de l'Asie, peu de chances que vous trouviez de quoi manger et survivre dans le nord de l'Europe. Malgré tout, il y a toute une série d'espèces qui y parviennent. On vient de citer Ragolettis completa, la petite mouche du noyer, qui était à l'origine, en fait, présente exclusivement en Californie.
Et les fameux frelons asiatiques.
Voilà, les frelons asiatiques, on peut en citer énormément ainsi, des espèces qui, entre le moustique tigre qui colonise aussi l'Europe, il y a énormément d'espèces qui sont particulièrement problématiques pour notre santé ou pour notre production de plantes.
Et alors, la question du réchauffement climatique, François Verrigan, vous avez observé des mutations chez les insectes en lien avec le réchauffement climatique?
Alors, je ne vais pas parler de mutations, mais ce qui est évident, c'est qu'avec le changement climatique, les changements climatiques, on observe d'une manière générale des changements d'air de présence, donc des zones où l'insecte se sent bien. Un insecte qui a besoin de minimum 20 degrés pour pouvoir se développer ne se développerait pas partout sur le territoire européen, mais avec le réchauffement, tout doucement, commence à avoir plus en plus d'espace où il se sent bien. Mais c'est valable évidemment dans le sens inverse aussi. On voit avec les changements climatiques des épisodes extrêmes, par exemple de température importante pour des périodes relativement longues, 2 semaines, 3 semaines. On a tous en tête les récents étés où on a eu des périodes de forte chaleur. Certains insectes ne supportent pas ça. Et donc voilà aussi d'autres espèces qui disparaissent ou en tout cas qui sont mises à mal. Et toujours, il faut se rappeler que si on perturbe un insecte ou un groupe d'insectes, on perturbe toute la chaîne qui est derrière. Les exemples sont nombreux, documentés, pour montrer que certains oiseaux sont de moins en moins présents parce que lorsqu'ils reviennent de migration, il fait déjà tellement bon sur l'air de retour que les insectes qu'ils ont l'habitude de manger en sont déjà à un stade de développement trop avancé. Ils n'ont plus à manger dès lors.
J'ai reçu à ce micro des forestiers qui observent la transformation des forêts liées à ce réchauffement climatique et que des arbres que l'on ne trouvait pas dans le nord commencent à monter peu à peu du sud pour s'installer dans le nord de la France. Est-ce que vous voyez des insectes des régions du sud qui, peu à peu, monte avec le réchauffement?
Oui, le premier qui me vient en tête, c'est le moustique tigre. Il y a quelques années, on ne faisait que les détecter encore sporadiquement. On n'avait pas des populations établies. Et puis, depuis, disons, une vingtaine d'années, dans le sud de la France, vous avez des populations établies. Ce que j'appelle établies, ça veut dire que non seulement on les voit, mais ils ont réalisé tout un cycle de reproduction. Ils sont donc capables de construire de nouvelles populations à partir donc de ces nouvelles aires envahies. Et il suffit de suivre ainsi sur une carte que qui ne passerait pas du tout en radio, mais enfin on pourrait voir année après année le front d'avancée des populations de moustiques tigres vers le nord. Ils progressent évidemment avec leur capacité de dispersion, mais aussi avec les températures et les conditions climatiques qui évoluent.
Et les maladies qu'ils véhiculent, notamment la dengue.
On pourrait un jour, alors aujourd'hui il ne faut pas s'alarmer évidemment, parce qu'avant qu'un moustique ne devienne particulièrement dangereux, il faut encore qu'il pique quelqu'un qui soit malade, et ensuite qu'il ait cette idée d'aller piquer une personne saine, et alors il y aurait transmission. Pour l'instant, ce n'est pas des risques qui sont extrêmement élevés, mais...
Mais il y a quelques cas.
Il y a quelques cas, et surtout ces cas risquent d'augmenter dans l'avenir, à l'avenir.
C'est la balade du moustique qui pique, qui pique, qui pique. La balade du moustique qui pique, repique, il pique. Il pique ma sœur, il pique mon frère, mon chien et ma grand-mère. Il fait que ça le jour, la nuit, c'est un sacré pic en l'air.
En François Verheyghen, je le disais, vous êtes entomologiste, donc spécialiste des insectes, mais parmi vos passions, il y a aussi l'éthologie. Et je dis passion, mais c'est aussi votre métier. Vous donnez des cours depuis une dizaine d'années sur l'éthologie. Alors on va expliquer tout de suite ce qui se cache derrière ce mot éthologie. Alors
faisons simple, l'étude du comportement animal. Hein, tout ce qui s'intéresse aux animaux, on parle de zoologie, et donc je dispense un certain nombre de cours de zoologie aux étudiants. Je dispense des cours sur l'anatomie des animaux, sur la classification des animaux, et un cours notamment sur le comportement des animaux.
Et alors là, pas que les insectes. Vous vous intéressez à tous les animaux, enfin à tous. Il y en a 1,5 million d'espèces. Non, donc vous avez quand même quelques animaux que vous observez, puis vous lisez beaucoup de travaux scientifiques. Hein. Je crois que c'est ça qui est vraiment indispensable dans votre enseignement.
Oui, exactement. À côté des travaux que je fais sur le comportement des insectes en particulier, bien évidemment, j'essaie de dispenser un cours qui soit plus général à mes étudiants. Donc on a 24 heures pour passer ensemble les généralités sur le comportement animal, mais ça doit inclure autant un cétacé qu'un oiseau, un amphibien, évidemment. Et c'est quelque chose que j'ai la chance de dispenser depuis plus de 10 ans maintenant. Et vous devez lire, évidemment, à l'université. Vous ne devez pas, enfin, faut pas ressortir un vieux manuel des années 50. Vous essayez de rester au jour en sortant les dernières découvertes et de les proposer aux étudiants. Et c'est ce qui est incroyable dans ce métier, c'est que vous êtes forcé à lire des choses incroyables. En tout cas, quand vous êtes passionné de comportement animal, vous lisez des choses incroyables qui montrent que la science progresse et repousse encore une fois. C'est ce que j'essaie de dire dans le livre, d'ailleurs, les barrières qu'on a tendance à dire quand qu'on fixe pour c'est quoi l'homme, qu'est-ce qui diffère l'homme des autres animaux. Vous vous rendez compte qu'en fait, toutes ces barrières, elles s'effondrent par les travaux scientifiques actuels.
Alors François Verheyghen, moi j'aimerais bien être un de vos élèves, parce que alors, si vous donnez vos cours, comme vous expliquez dans votre livre Un Tanguy chez les hyènes, le comportement des animaux, ça doit être assez, assez passionnant. Alors on va passer un petit moment ensemble pour que vous nous aidiez à découvrir quelques comportements étonnant des animaux que vous nous expliquez dans ce livre. Alors, un tanguy chez les hyènes, c'est un titre surprenant, là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le tanguy, ça fait allusion au film de ce garçon de 35 ans qui ne peut pas sortir de chez ses parents?
Oui, c'est cette allusion-là. Alors, petite anecdote sur le titre. Vous savez, moi, j'ai dit à l'éditeur, je veux faire un livre pour tout le monde. Et je lui ai fait 12 propositions de titres, les unes après les autres. Aucune ne convenait, parce qu'à chaque fois, il me répondait, ça, c'est pas des titres pour tout le monde. Monsieur Verheyghen, vous êtes dans le milieu académique, vous ne nous proposez que des titres de manuels d'ouvrages académiques. Et ils m'ont proposé un tanguy chez les hyènes, qui est en fait le titre de la 30e histoire, et donc la dernière histoire. Ce livre est composé de 30 petites nouvelles histoires, chacune mettant en scène un animal différent, un comportement fabuleux et surprenant. Et oui, ils sont allés chercher la 30e.
Vous finissez sur les hyènes. On parlera des hyènes tout à l'heure, parce que vous les aimez bien, les hyènes. Ah, elles sont finalement pas aussi antipathiques que ça, mais on le verra dans un petit moment. J'aime bien ce que vous dites dans votre livre, il faut éviter l'anthropocentrisme lorsque nous étudions le comportement des animaux. Alors, expliquez-nous, c'est possible de se décentrer de notre regard d'humain pour étudier les animaux, ou c'est un vœu pieux?
Non, je pense que c'est possible de faire de son mieux, en tout cas. C'est-à-dire que c'est certainement l'un des plus grands défis des éthologues. Mes travaux scientifiques, je dois m'y plier également lorsque je cherche à comprendre la fonction d'un comportement. Donc, c'est la fonction, c'est le pourquoi. Pourquoi l'abeille danse ou pourquoi le chimpanzé chatouille le cou d'un autre chimpanzé. Voilà, vous devez absolument faire abstraction de la fonction de si c'était des humains, évidemment. Je ne danse pas parce que j'aime danser, j'ai envie de me dépenser, je veux faire la fête. Non, vous devez vous poser la question avec des yeux d'abeille ou de chimpanzé et analyser les coûts de ce comportement, les bénéfices de ce comportement, toujours en termes de survie et de reproduction. Ce que j'aime expliquer à mes étudiants dès le premier cours, c'est que tous les comportements ont le même objectif.
Survivre.
Survivre. Afin de se reproduire. Parce que la fonction ultime de tous les comportements, c'est transmettre ses gènes à la génération suivante. Et l'humain est sans doute la seule exception aux 1,5 million d'espèces animales. L'humain est sans doute le seul à adopter des comportements qui sont contraires à cette loi. Vous fumez peut-être, vous traversez un passage pour piétons avec votre smartphone, vous faites des lourds excès de vitesse avec votre auto. Tout ça sont des comportements...
Vous inventez la bombe atomique.
Voilà. Tout ça sont des comportements qui sont contraires à la notion de survie et donc de reproduction.
Il n'y a que l'homme qui a ce comportement où il se met finalement en danger par ses propres choix.
On a longtemps cru pouvoir identifier plein de comportements ainsi chez les animaux qui vont à l'encontre de cette règle et... À chaque fois, on en revient à la même conclusion, à force de travail, d'observation, de caractérisation de ces comportements, on en revient, finalement, même si ça paraît saugrenu, même si, en fait, ça sert leur survie ou ça augmente leur capacité de reproduction. Et c'est ce qui est, effectivement, donc, le piège de pour tous les éthologues, c'est d'anthropocentrer ces interprétations.
Mais vous voyez, on a quand même ce réflexe, en tous les cas, nous, quand on est spectateur, les exemples d'éthologie que l'on connaît, c'est Jane Goodall, par exemple, qui étudie les chimpanzés, toutes les recherches qui ont été menées sur les gorilles. Donc, les premiers grands comportements des animaux ont été vers ceux qui nous ressemblaient beaucoup.
Oui, et les travaux de Jane Goodall, vous la citez, sont évidemment de très bons exemples, parce que quand Jane Goodall part en Afrique avec un carnet et une paire de jumelles et commence à observer, se fondre véritablement dans des populations de chimpanzés, elle observe des comportements qu'on n'avait jamais décrits avant. Pourquoi cet individu arrache une feuille, la coupe, la plie? Est-ce que c'est pour jouer? C'est ce que peut-être on aurait tendance à croire, nous humains, mais en fait non, il y a une fonction à ce comportement. Elle s'est rendue compte qu'en faisant de la sorte, cette plante, plier comme cela permet d'aller chercher de l'eau dans une crevasse, dans une surface inaccessible par sa bouche ou par ses mains. C'est le seul moyen, le seul outil qu'il a développé pour pouvoir aller chercher cette eau. Pourquoi est-ce que cette branche est transformée en une âme qui est lancée sur un congénère? Est-ce que c'est parce qu'il ne s'aime pas? Non, absolument pas. C'est parce que cet individu s'approche trop près de sa compagne et qu'il faut lui dire que, écoute, c'est ma compagne, va t'en chercher une, quoi. Et donc, en fait, il y a à chaque fois une fonction à tous ces comportements étranges qui... sont à chaque fois rattachés ainsi à la survie, à la reproduction de l'animal.
Oui, mais vous voyez, ça se rapproche des comportements humains.
Ah oui, bon, l'humain a plein de comportements qui, évidemment, maximisent sa survie et sa reproduction. Il n'y a pas de problème. Lorsque vous vous parfumez, vous faites beau pour aller à une soirée, vous êtes célibataire, vous faites évidemment ce que font plein d'animaux. Vous allez en quête de séduction, vous voulez montrer aux autres à quel point vous êtes potentiellement un bon partenaire. Donc évidemment, lorsque l'on va travailler, on le fait pour survivre. Lorsqu'on sélectionne le ou la plus belle partenaire, c'est parce qu'on veut avoir les plus beaux enfants.
Surtout si elle est bien parfumée ou s'il est bien parfumé.
Évidemment, aussi, les odeurs, les on odeurs. En revient.
Visage, RCF.
Alors, j'aimerais que vous nous racontiez quelques exemples des comportements animaux que vous décrivez dans ce livre, Un tanguy chez les hyènes, François Verhaeghen. On va commencer par la territorialité. Premier chapitre, finalement, on se rend compte que c'est très, très important. Son territoire et la défense de son territoire.
Tout à fait. Et je vais vous dire que la territorialité, si je l'ai mis au tout début, c'est parce que j'estime qu'il y a tellement de comportements qu'il faut, pour les comprendre, appréhender sous l'œil de la territorialité. Pourquoi ce rhinocéros s'arrête-t-il à peu près net dans sa course? Pourquoi est-ce que ces suricates commencent à se faire, à s'invectiver sans venir aux mains?
Mais... Attends, les suricates, je pense que beaucoup de gens ne les connaissent pas. C'est quoi, c'est des petits carnivores.
Des petits carnivores, des petits mammifères carnivores qu'on va retrouver en Éthiopie, au niveau de la Corne de l'Afrique, et qui sont adaptés à des
zones désertiques,
exactement,
c'est ça. On les voit debout sur leurs pattes arrière, là, bien droit. Je pense que les gens ont dû les voir à la télé.
Oui, voilà, surtout si.
Les petits suricates.
Eh bien, voilà. Donc, tous, eux, vous ne comprendrez leur comportement et leurs habitudes que si vous comprenez qu'ils sont extrêmement territoriaux, qu'ils forment des clans. Souvent, il y a des liens de parenté entre les membres d'un clan, et que un territoire doit être protégé pour les ressources qu'il y a, souvent rares dans les zones désertiques, une source d'eau ou une réserve de nourriture, de fruits. Il faut protéger ces ressources. Et donc, pourquoi est-ce que deux suricates semblent marcher toujours le long des mêmes chemins? Parce qu'en fait, ils patrouillent le long des frontières. Et pourquoi deux suricates semblent surler l'un envers l'autre sans jamais s'approcher? Parce qu'ils sont de part et d'autre d'une frontière et qu'ils appartiennent à des clans différents.
Et encore, ils ont marqué ces frontières par leurs odeurs.
Oui,
on retrouve encore
extrêmement commun, puisque quand on a un territoire, il faut le faire savoir. Et lorsqu'on est un oiseau, on utilise un chant. Quand on est un rhinocéros, on dépose des colonnes de crotte. Lorsque l'on est un suricate, on griffe le sol et on marque de son urine aussi le sol. Plein de... les odeurs, encore une fois, marquées par les odeurs, son territoire.
Je suis désolé, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'homme. L'homme, quelque part, et un peu pareil.
Il marque son territoire. Une barrière le long de son petit terrain.
Nos frontières sont nos territoires. On le voit malheureusement dans les guerres entre pays. On a créé des frontières, des territoires. Finalement, on est un peu comme les animaux.
Mais pas plus tard que ce matin, j'avais un gentil message d'un lecteur qui me disait: Monsieur Vreugen, j'ai lu la première histoire de votre livre, La guerre des clans, qui met en scène deux clans de suricates qui se tapent dessus. Et il me dit: mais monsieur, en fait, à quel point le parallélisme est fort entre ce qui se passe du côté de l'Ukraine et de la Russie, entre ces deux clans de suricates qui, en fait, l'un lorgne sur les ressources de l'autre, il y a des invectives, des signaux pour dire je vais te faire la guerre, et puis la guerre est effectivement initiée, et puis il y a le plus fort qui gagne sur le plus faible et qui chasse. Et effectivement, moi évidemment j'ai écrit tout cela avant le début du conflit, mais c'est vrai, le parallélisme avec l'humain, on en revient à la notion de territoire, on en revient à la notion de ressources qui s'y trouvent, et les conflits, malheureusement, entre humains ou entre animaux, ont beaucoup de points communs, certainement. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant de voir chez les animaux, grâce à vous, François Vreugen, c'est que certains ont des bons comportements quand même, des comportements très solidaires. Vous appelez ça le mutualisme.
Ouais.
Et alors là, j'ai été complètement passionné, fasciné par le labre nettoyeur. Alors, racontez-nous comment ces labres, et puis d'abord ce que c'est qu'un labre, peut devenir presque ami avec celui qui devrait le manger normalement, avec son prédateur. Elle est incroyable cette histoire.
Je vous remercie, et c'est une histoire qui fait écho à énormément de travaux scientifiques. On essaye de vulgariser tout cela. Le labre nettoyeur, c'est un petit poisson. Effectivement, il n'est pas très grand et il a cette particularité, c'est qu'il est territorial. Il s'installe sur un endroit que j'ai appelé la station de nettoyage, parce qu'en fait, c'est comme ça que les scientifiques l'appellent. Et avec ses compagnes, souvent un mâle qui est accompagné de quelques femelles, il fait la toilette aux poissons de passage. Et les poissons en question viennent se présenter au niveau de ce petit territoire, et le labre commence à se promener sur le corps du poisson. Dans les branchies, il retire toutes les crasses qui viennent se loger, il retire les parasites. Et de temps en temps, il offre même des massages. Les massages, il n'a pas des doigts, mais enfin, il appuie avec son corps sur les écailles du poisson. Les scientifiques ont montré que cela procurait un bien-être chez ces poissons qui reçoivent le massage. Ils en retirent donc du plaisir et quelque part, donc, ils vivent mieux. On en revient toujours. Évidemment, ces poissons, ces labres sont aussi la proie de quelques prédateurs, mais les prédateurs ont vite compris, sans doute, qu'il valait mieux profiter des soins d'un poisson qualifié ainsi, plutôt que d'un repas qui serait trop fugace, vu sa taille de petit poisson. Et donc, ils viennent se présenter dans la station de nettoyage, sans animosité, sans sembler menaçant, et le labre comprend dès lors que le prédateur en question vient chercher son petit soin.
Même qu'il entre parfois dans la bouche de ce prédateur pour lui nettoyer les dents.
Oui, il y a plein de choses. Quand vous êtes un prédateur, vous avez plein de choses qui viennent se caler dans vos dents. Évidemment, un service n'est pas rendu gratuitement lorsqu'un poisson décide de dépenser son énergie, son temps pour soigner un autre. faut qu'il soit payé en échange. Hein. C'est du donnant-donnant. Et alors, sur les poissons, si vous avez déjà tenu évidemment un poisson, on sent que c'est un peu gras. Il y a en fait ce mucus qui recouvre les écailles du poisson. Et le labre adore ça, le mucus. Ça, c'est vraiment son plat préféré. Sauf que aller prélever du mucus sur un poisson comme ça, il va se faire chasser. Et donc, le poisson qui se fait masser, qui se fait nettoyer, accepte de se faire mordre, de se faire prélever un petit peu de son mucus qu'il aurait bien conservé. Parce que le mucus, c'est important pour se protéger contre les bactéries. C'est important pour glisser dans l'eau. Et il accepte de se faire mordre. C'est un peu douloureux, mais malgré tout, ça vaut bien un petit massage.
Mais le labre doit faire attention quand même. Il ne faut pas qu'il abuse.
Le prix doit être fixé, justement. Ni trop cher, ni pas assez.
Et alors, ce côté mutualiste, ça existe chez beaucoup d'animaux.
Oui. Donc, le mutualisme, en deux mots, c'est de la coopération à bénéfice réciproque. C'est-à-dire qu'on se rend service mutuellement. Ça va dans les deux sens.
Ah, comme les mutualités chez les humains, normalement.
Exactement. D'ailleurs, on n'avait rien inventé à ce propos. Il y a plein de choses qu'on n'a pas inventé. La sécurité sociale aussi, enfin, soit. Et donc, voilà que oui, des poissons coopèrent l'un avec l'autre pour mieux chasser un poisson, une proie. C'est le cas du mérou et de la murène qui s'informent mutuellement que hey, j'ai vu une proie passer, viens m'aider, et on s'entraide pour l'attraper. Le mutualisme, c'est aussi quand un puceron, ces petits insectes qui piquent les plantes, recrute des gardes du corps en la personne des fourmis qui viennent protéger les pucerons contre les attaques de coccinelles. Mais en échange, il faut bien les rémunérer, ces gardes du corps, et le puceron produit des fèques, une solution sucrée que raffole la fourmi, et donc la fourmi est payée avec du sucre que le puceron produit. Donc oui, le mutualisme, il est partout dans le règne animal, et ça démontre bien qu'on va plus vite à plusieurs en s'entraidant que chacun dans son coin.
Mais là aussi, on voit bien, François Verheyen, que chez les animaux, il y a ceux qui en profitent et puis il y a ceux qui sont vraiment généreux. Il y a les altruistes, comme vous dites, et ouais. Il y a les parasites chez les animaux. Allez, voilà. Les parasites.
Un parasite ?
Ouais.
On y va. Le coucou, sans doute. L'un des plus connus, c'est un oiseau. Hein, évidemment, son nom vient de son chant, hein, le coucou. Et alors, cet oiseau, il ne sait pas faire de nid. Mais quand vous ne savez pas faire de nid, que vous devez quand même pondre des œufs, comment est-ce que vous faites ? Eh bien, vous allez pondre vos œufs dans, ou un œuf, en tout cas, dans le nid d'un autre couple de petits passereaux, des petits oiseaux, qui sont en passe de devenir parents. Et donc, on va pondre son œuf dans ce nid. L'œuf, c'est formidable, l'évolution a fait en sorte que cet œuf ressemble à l'œuf de ces petits passereaux qui n'y voient que du feu, s'ils sont parents pour la première fois, les voilà avec 3 œufs au lieu de 2. Ma foi, il l'accueille.
Il ne pose pas de questions, il l'accueille, il le couve.
Le problème du coucou, c'est qu'il éclot très vite. Le voilà donc, le l'oisillon coucou à sortir de sa coquille le premier. Les parents le nourrissent autant que possible. Ils doivent quitter tous les deux le nid pour aller chercher un maximum de proies pour nourrir ce glouton. Glouton qui attend que les parents quittent le nid pour se débarrasser de ses futurs frères et sœurs. Parce qu'il sait, dans ses gènes, c'est écrit, son instinct lui dit, tu auras besoin de toute l'attention de tes parents adoptifs. Et le voilà à débuter ce comportement macabre qui consiste à pousser les œufs de ses petits parents, de ses parents adoptifs hors du nid pour être le seul à bénéficier des soins de ses parents.
C'est horrible comme histoire.
C'est la voie qu'a pris, y compris, toute une série d'espèces qu'on qualifie de parasites, donc d'égoïstes. C'est des comportements égoïstes qui consistent à maximiser son bien-être au détriment de celui d'un autre.
Et alors, grâce à vous, on découvre que ceux qui ont l'air les moins sympathiques, même qui nous font peur, sont finalement les plus altruistes, les plus généreux.
Parlons des vampires.
Eh oui, des vampires. Des vrais vampires.
Les vrais, cette fois.
Alors, les vrais. D'ailleurs, qui sont ces vampires ?
Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'avais proposé un titre pour ce livre qui parlait des vampires, Le Pacte des Vampires, en référence à cette histoire. Mais...
Ça aurait fait peur, je pense.
Ben oui, puis fantastique aussi. Or, ce qu'il y a dans le livre est vrai. Donc oui, les vampires...
Ils sont altruistes, ils sont sympas. C'est incroyable ce qu'ils font, les vampires.
C'est incroyable. Et l'altruisme a toujours étonné les spécialistes du comportement et de l'évolution, parce que l'altruisme va à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette règle qui tout comportement doit maximiser votre survie et votre reproduction. L'altruiste, il fait l'inverse, il se défavorise pour aider un autre. Donc on se demande toujours comment ce comportement peut-il subsister. Eh bien, chez les vampires, qui sont une espèce de chauve-souris hématophage, ils vont chercher du sang pendant la nuit et puis le jour, ils se retrouvent...
Sur les chevaux, on va rassurer les auditeurs, hein, c'est pas sur les humains.
En effet.
Généralement, ils vont pomper le sang des chevaux,
voilà,
ou des
vaches.
Voilà,
ils font une petite incision au niveau de l'oreille des cochons, des vaches ou des chevaux, ils reviennent avec ce sang, le ventre gonflé de sang, ils reviennent et puis là, il y a de temps en temps, dans cette caverne ou dans cet abri où ils se retrouvent pendant la journée, un qui n'a pas mangé, qui a été un petit peu malheureux dans sa chasse et qui mendie littéralement auprès de ses congénères, il dit « j'ai faim ». Et là, pour éviter les tricheurs, quand même, ils mettent en place un système où ils se palpent le ventre. Je vérifie que tu es bien à jeun, parce que des fois, éviter celui qui abuserait, qui essaierait de recevoir alors qu'il est déjà bien gavé. Et alors là, effectivement, la chauve-souris qui a bien mangé va régurgiter du sang dans la bouche d'un autre vampire affamé. En faisant cela, elle réduit son espérance de vie parce qu'elle perd une partie de son repas, mais elle aide drastiquement son congénère.
C'est incroyable, hein, cette expression que vous écrivez dans le livre. Ils réduisent leur espérance de vie pour augmenter celle des autres.
C'est le concept, je trouve, de la sécurité sociale. C'est-à-dire que l'idée, et ils le font parce qu'ils savent qu'un jour, ils seront peut-être dans la position du malheureux qui n'a pas pu manger. C'est des chauves-souris sans manger pendant 2 jours. Elles ont des forts risques de mourir. Donc il est important de mettre en place un système d'entraide et donc de reconnaissance des tricheurs, parce que dans tout système d'entraide, il faut éviter les tricheurs. Et donc ces chauves-souris qui se voient fréquemment se partagent le sang en fonction de qui en a vraiment besoin. Et c'est ce comportement qui permet à cette communauté de survivre, parce que les chances sont tellement importantes de rentrer bredouille que sans ce comportement, la population s'effondrerait.
François Verheyen, tous ces comportements qu'on vient d'évoquer, ils sont innés ou ils sont acquis ?
Encore une grande question qu'il y a, je dirais, un petit siècle, on se posait énormément. Hein, c'était toute la question de la part innée et de la part acquise. Il n'y a que très peu de comportements qui sont soit totalement innés, soit totalement acquis. La vérité, elle est toujours entre les deux. Il y a tout plein de comportements, c'est vrai, qui sont codés dans les gènes. Des comportements d'apprentissage où il y a des périodes où on est capable d'apprendre, d'autres pas. Des comportements réflexes quand un crapaud sort sa langue pour attraper un petit objet qui bouge devant lui en pensant que c'est une proie, c'est un comportement réflexe, c'est écrit dans les gènes. A contrario, il y a tout plein de comportements qui sont principalement le fruit de l'acquis, de l'apprentissage. Et la vérité, c'est que la plupart des comportements sont un peu entre les deux. Les gènes donnent une partition de musique, je dis souvent à mes étudiants, mais ensuite libre au musicien de l'interpréter comme il veut. Donc c'est une base qui peut ensuite être modulée. Si vous êtes un insecte, il est très probable que cette partition vous en écartiez très peu, parce que l'apprentissage chez les insectes, en général, chez les arthropodes, donc les crevettes, les araignées aussi, c'est assez réduite. A contrario, chez les mammifères, la part d'inné est assez faible et la part apprentissage est très importante. Donc c'est ce qui fait qu'on est très différent entre humains ou entre mammifères en général. Alors que les insectes sont tous très stéréotypés parce qu'ils ont des comportements écrits dans leurs gènes.
Donc si je vous entends bien, une araignée qui va tisser sa toile, qui est absolument fantastique, va le faire de manière innée. Et le petit chimpanzé qui va prendre une brindille pour aller la faire entrer dans une fourmilière pour essayer d'attraper des fourmis et s'en nourrir, c'est de l'acquis.
C'est tout à fait ça. Malgré tout, le chimpanzé a sans doute une base de curiosité, d'avoir envie d'aller se diriger vers ce genre de choses qui semblent appétissantes, comme une fourmi. Donc il y a une base, mais le tout doit être appris par l'observation, éventuellement même par l'enseignement, qui est quelque chose qu'on a découvert chez les chimpanzés assez récemment. Et l'araignée, c'est la même chose. Ce comportement, il est inné. Vous pouvez l'isoler de tout contact avec tout autre congénère de son espèce. Elle restera capable de faire une toile sans aucun apprentissage. On observe malgré tout qu'il y a quand même un petit peu de perfectionnement. Donc il y a quand même un peu de place pour l'acquis.
Est-ce qu'on peut parler du langage des animaux ? Là encore, l'énorme question. Est-ce que les animaux se parlent ? Ou alors, j'utilise plutôt l'expression « communique ».
Oui, elle est la plus adaptée. Évidemment, les animaux communiquent. Je vais même vous apprendre un truc. Les plantes aussi, d'ailleurs. Les bactéries aussi. Alors, pour rester chez les animaux communiquent. Et selon le groupe d'animaux auquel l'espèce appartient, l'évolution a parfois privilégié la parole, les sons, et d'autres uniquement les gestes et les contacts physiques, par exemple, ou les odeurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont extrêmement importantes chez de très nombreuses espèces. C'est des langages. Quand l'abeille danse, c'est sa manière de communiquer une information à ses congénères. Mais on peut rester dans la ruche. Quand la reine signale l'importance d'augmenter la production de descendants, ça se fait par des odeurs. Elle émet des odeurs et pas des sons. Lorsque le grillon chante, c'est pour séduire, et c'est donc par des sons alors qu'il communique. Chaque espèce, son langage.
Alors, François Verheyen, vous le dites dans votre livre, l'homme n'est qu'un animal parmi les autres. Vous l'affirmez ?
Oh mais mille fois,
affirmez ça. L'homme n'est qu'un animal parmi d'autres. Ah, attendez, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit pendant des millénaires dans toutes les traditions religieuses, dans toutes les cultures. L'homme est un peu à part.
Ah oh, bah Aristote disait déjà 4 siècles avant Jésus-Christ qu'il y a les végétaux, les animaux et il y a l'homme. Évidemment, tout cela ne peut plus être accepté parce que finalement, qu'est-ce qui permet de différencier l'homme des animaux, des autres animaux, j'entends. En fait, lorsque l'on représente l'évolution du vivant en général, hein, pas que des animaux, vous devez absolument vous défaire de cet homme qui serait placé sur la plus haute branche de l'arbre qui monterait jusqu'à lui. L'homme n'est que l'extrémité d'une des très nombreuses branches du vivant où le tronc correspondrait à l'ancêtre commun à toutes les espèces animales vivantes et qui se serait divisé en grandes branches, ce qu'on appelle les embranchements du règne animal, les grandes catégories, les vers, les mollusques, les arthropodes, les mammifères, etc.
Donc l'homme fait partie de la branche des grands singes.
Oui, exactement.
C'est un grand singe évolué.
Des hominidés, tout à fait. On est extrêmement proches génétiquement de nos plus proches cousins, oui, effectivement, que sont le bonobo, par exemple.
Oui, mais alors, François Verheyen, je suis sûr que beaucoup de gens, en vous écoutant, se disent, bon, très bien, c'est vrai qu'on ressemble à un gorille, c'est vrai qu'on a 99,5% d'ADN en commun avec les grands chimpanzés. Pourtant, il n'y a pas de chimpanzé capable de construire le Taj Mahal en Inde ou le château de Versailles. Il n'y a aucun bonobo capable d'écrire une sonate de Bach. Il y a quand même chez l'homme des particularités assez incroyables. Donc comment expliquer, si l'homme est un animal comme les autres, qu'il ait été capable dans son évolution, finalement en très peu de temps, de produire une création artistique, littéraire, qu'on soit là en train d'échanger tous les deux sur le comportement des animaux, ce que ne font pas les autres animaux, visiblement.
Oui, c'est sûr qu'on peut repartir dans l'histoire évolutive de l'homme. Néanmoins, j'ai envie de demander, est-ce que ces caractéristiques font que l'on doit nécessairement être supérieur et que l'on doit nécessairement être placé dans une case à part des autres espèces animales?
On est différent quand même, non?
On est fortement... Mais est-ce que le bonobo n'est pas fondamentalement différent de la limace? Pourquoi ne placeriez-vous pas tous les grands singes, alors, sur le côté? Pourquoi faire cette catégorisation où l'homme, forcément, doit être au-dessus de tous les autres qui sont dans un même panier des animaux? On a tous, les espèces animales, des niveaux de capacités cognitives, sensorielles, extrêmement différentes. Parfois, on a l'impression de placer l'homme sur un piédestal parce qu'il fait tout mieux que les autres. Pourtant, comparez votre capacité olfactive à celle d'un papillon et je vous assure qu'on paraît ridicule.
Par rapport à un dauphin?
Par rapport à un dauphin.
Au niveau de Louis, je crois.
Louis, vous pouvez utiliser les ultrasons des chauves-souris. Il y a en fait 1 million d'exemples qui démontrent qu'on est nul sur toute une série de concours que l'on pourrait mener avec d'autres espèces. On saute pas très haut. Une puce, ça saute l'équivalent d'un immeuble de plusieurs dizaines d'étages si vous deviez être une puce. On n'est pas très, très bon, hein, pour l'instant.
Donc, moins vite qu'un guépard, ça, c'est sûr.
Voilà, en comparaison, la force à soulever, si vous êtes un Goliath, un insecte, un coléoptère, un gros scarabée, vous porteriez 2 ou 3 autobus. Donc, on n'est pas particulièrement fort sur toute une série de points, mais on a décidé qu'effectivement, alors c'est vrai, nos capacités cognitives sont tel que l'on est capable, et ça, il y a encore des choses qui restent donc à démontrer chez d'autres, hein. On est capable de se représenter le futur, on est capable d'anticiper toute une série d'éléments, même si l'anticipation est observée chez les grands singes aussi, finalement. Longtemps, on a cru que la culture, par exemple, c'était quelque chose qui était le propre de l'homme. Donc la culture, le fait de transmettre une tradition, un comportement, un savoir entre individus qui appartiennent à la même population que vous, on parle de culture française, ou on parle de culture bretonne ou que sais-je. Mais en fait, la culture est aussi quelque chose qu'on observe chez les grands singes, qu'on observe aussi même chez les corbeaux, si vous voulez tout savoir. Donc, je ne dis pas que nécessairement on va pouvoir démontrer que toutes les espèces animales vont pouvoir faire la même chose que nous, mais par contre, tous ces éléments qu'on utilisait pour se différencier avec d'autres espèces sont en train de fondre.
Et qu'est-ce que ça doit nous dire, ça? Ça nous invite à quoi?
À de l'humilité, moi je dis toujours, à énormément d'humilité, c'est-à-dire que lorsque... Il y a un moment dans ma vie qui se répète très souvent, c'est lorsque je prends l'avion, que j'essaie de prendre le moins souvent possible. Mais vous observez du hublot le paysage et vous vous dites, Mais est-ce qu'il y a vraiment un centimètre carré sur cette Terre où l'homme n'a pas eu un impact et n'a pas perturbé la vie de toute une série d'autres espèces? Et c'est absolument perturbant. C'est toujours un moment où je me fais la même réflexion. Je me dis, mais est-ce que l'on respecte vraiment toutes ces espèces qui ont des capacités certainement bien supérieures à ce que l'on pense? Et est-ce que l'on comprend bien, en fait, leur place et leur importance dans l'environnement? Est-ce qu'on comprend bien qu'en fait, sans respecter ces équilibres, on ne se respecte pas et on va droit dans le mur, en fait.
Qu'est-ce qui a le plus changé en vous depuis que vous étudiez le comportement des animaux, l'éthologie?
La contemplation. Moi, je suis devenu, je pense que je n'étais pas adolescent, je suis devenu contemplateur. C'est-à-dire, vous me placez absolument n'importe où il y a de la vie et je vais commencer à m'arrêter et il va falloir me rappeler et observer. Puis je vais entendre un oiseau chanter, je vais me demander est-ce qu'il est en train de chanter pour séduire ou est-ce qu'il est en train de chanter pour faire fuir un autre. Alors je cherche le congénère qu'il cherche voilà. Et je vais passer ma vie à observer. Pareil, si je vois des insectes sur une plante ou si je vois, voilà. Ça a énormément changé. Vous apprenez vraiment à contempler. Et moi, c'est quelque chose que j'adore faire maintenant. Et il y a une chose que j'aime laisser chez moi, c'est une paire de jumelles. Il y a deux paires de jumelles dans la maison qui sont toujours laissées au bord près des fenêtres pour que les enfants prennent l'habitude de prendre la peine d'observer ce qui se passe dans le jardin ou sur le toit du voisin.
François Verrigan, depuis le début de notre entretien, moi j'ai le plaisir de voir vos yeux qui pétillent. Vous avez une vraie joie qui vous habite. Vous aimez... votre métier, ça c'est clair. J'ai l'impression que c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Non ?
Oui, je pense que j'ai un métier incroyable parce que non seulement j'estime que je travaille sur des sujets intéressants, remplacer les insecticides par quelque chose de plus respectueux de l'environnement et de notre santé, je trouve que c'est chouette. D'un autre côté, transmettre à des étudiants la beauté de la diversité du vivant, je trouve que c'est vraiment formidable aussi. Donc, et puis pouvoir en plus avoir un métier qui me permet d'écrire et de communiquer vers tout le monde hors des auditoires, ce que j'ai essayé de faire avec ce premier bouquin.
Et puis on l'a pas évoqué, mais aussi participer à la coopération et au développement de pays en difficulté comme Madagascar, par exemple.
Oui, j'ai aussi donné beaucoup dans ma carrière de place aux pays en voie de développement. Alors c'est vrai que Madagascar m'a occupé beaucoup. Je suis aujourd'hui plutôt présent dans les pays d'Afrique de l'Ouest et francophones, donc au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal, en essayant de solutionner leurs problèmes, principalement, c'est vrai, autour de la gestion d'insectes qui ravagent leur culture. Et si chez nous, un champ de betteraves est ravagé, bien ma foi, on augmentera de 10 ou 15% le prix du sucre. Chez eux, c'est hypothéquer la survie d'une famille, les revenus, la capacité de scolariser des enfants parce qu'on n'aura plus l'argent, parce que tous les criquets sont passés ou les papillons ont tout mangé.
Et pour terminer, François Verrigan, qu'est-ce qui a changé dans votre regard sur vos frères humains, après avoir observé les animaux? Allez, sincèrement.
Mais ça ne va pas faire plaisir, c'est terrible, parce que vous me posez vraiment une question, vous me prenez au dépourvu, mais on est un virus, on est un incroyable virus pour notre planète et pour nous-mêmes. On sort d'une pandémie où je trouve qu'on n'a jamais si bien observé cela. Vous savez, je ne veux pas être long, mais on parle de fake news dans un des chapitres sur les sitelles. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être aussi dépendant de ces mauvaises fausses informations? Comment est-ce qu'on peut à ce point ne pas prendre soin des autres? Comment est-ce qu'on peut être à ce point égoïste alors que le règne animal nous apprend tout l'inverse? Donc ça, voilà. C'est certainement une vue négative, c'est vrai, de mes congénères. Pas tous, évidemment, mais je le sais bien.
Il y a des exceptions.
Mais évidemment, heureusement.
Comme chez les animaux. Allez, il y en a qui sont altruistes et d'autres parasites. Merci beaucoup, François Verrigan. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous interviewer autour de votre métier, votre passion. Et puis, je conseille vraiment ce livre, Un tanguy chez les hyènes. 30 comportements surprenants des animaux. Faut pas avoir peur de s'y plonger. C'est chez Delachaux et Nestlé.
Et c'est magnifiquement illustré par Stéphane Depré avec 75 aquarelles. Vraiment magnifique.
Oui, de belles illustrations. Merci beaucoup.
Merci.
Visage. Une émission proposée par Thierry Lyonnais. Réalisation technique, Philippe Faure.